On poursuit l'émission avec un documentaire qui arrive sur nos écrans dès demain. Ça s'appelle Humus et c'est un film qui fait l'éloge du sol vivant et de celles et ceux qui sont en harmonie avec les micro-organismes qui y vivent. Pour nous en parler, je rejoins Carole Poliquin qui est la réalisatrice de ce film. Bonjour.
Oui, bonjour Julie.
Comment en êtes-vous venu à réaliser ce film-là? Quelles ont été vos inspirations?
J'ai fait de nombreux films dans toute ma carrière qui abordaient, surtout les derniers ont abordé des questions environnementales. Et je me suis beaucoup intéressée à cette espèce de rapport au monde là, qui fait qu'on considère la nature comme un vaste réservoir de ressources marchandisables, exploitables pour répondre aux besoins des humains et qu'on faisait ce qu'on pourrait appeler l'extractivisme qu'on a surtout appliqué aux ressources minières. Mais il y a quelques années, j'avais comme amorcé une réflexion sur l'idée, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose en agriculture, parce que j'avais entendu parler de la dégradation des sols. On dit en 2015, c'était l'année internationale des sols, et il y avait un haut fonctionnaire de la FAO, la Food and Agriculture Organization, qui est liée aux Nations Unies, qui avait dit, mais les sols n'ont plus de vie. Et quand ils n'ont plus de vie, c'est de la matière minérale, c'est de la poussière qui part au vent ou avec la pluie dans les fossés. Et nos sols sont tellement pauvres et sans structure, ce sont les micro-organismes dont vous parliez justement qui amènent la structure du sol, qu'ils se défont, qu'ils partent en poussière. Et donc, on en aurait pour 60 ans, mais il disait ça en 2015, là, de sol, de terre arable que la nature a pris des millions d'années à fabriquer, que cette terre-là s'en va. Donc, comment on va manger? Puis là, depuis longtemps, j'avais entendu parler aussi de la révolution verte, que là, dans les années, après la Deuxième Guerre, mettons, puis dans les années 70, on s'est mis à dire, à promouvoir beaucoup, beaucoup l'usage de semences, pas encore génétiquement modifiées, mais de certaines semences qui étaient fabriquées pour, soi-disant, être plus productives, mais qui n'étaient pas nécessairement faites pour répondre aux conditions locales partout dans le monde. J'avais été en Inde, j'avais interviewé une activiste de l'environnement, Vandana Shiva, qui parlait de ça comme une espèce d'escroquerie, là. Les semences traditionnelles disparaissaient des catalogues et les nouvelles semences qu'on leur vendait, et c'est la même chose ici aussi, étaient dépendantes d'apports énormes en eau qui nécessitaient des barrages, d'apports énormes en engrais chimiques, en pesticides de toutes sortes qui n'enrichissaient que les multinationales et appauvrissaient les paysans. À un moindre degré, on vit ça ici, la disparition des sols aussi. En Montérégie, j'ai eu l'occasion de rencontrer un vieil agriculteur qui disait, quand j'étais petit, là, les sols arrivaient à la hauteur du chemin, puis aujourd'hui, ils sont quasiment un mètre plus bas. Où est-ce qu'ils sont partis, nos sols? Alors là, c'est cette réflexion-là là, que l'extractivisme s'appliquait aussi en agriculture qui a amorcé ma réflexion. Et de fil en aiguille, c'est devenu non pas juste un film qui allait dénoncer l'appauvrissement et la disparition de nos sols, mais un film qui apportait des solutions parce que, évidemment, les humains l'avaient observé. Même si la réflexion qui est nécessaire pour faire cette transformation-là de notre agriculture, elle existe. On sait aujourd'hui que les sols, la fertilité des sols est créée par les micro-organismes. Or, à chaque fois qu'on passe la charrue, qu'on laboure les sols, les micro-organismes ont détruit la cité, la maison des micro-organismes qui sont là à chaque étage à pas performer, mais à accomplir des fonctions qui amènent de la fertilité aux plantes. Ben, si on détruit la maison des micro-organismes, ben, comment, et les micro-organismes, les bactéries, les champignons qui ont des filaments qui permettent depuis des millénaires, c'est une symbiose qui existe depuis que les plantes existent, d'aller chercher des nutriments beaucoup plus loin que dans la proximité des racines. Alors c'est tout ça qu'on détruit. L'agriculture qu'on pratique aujourd'hui, l'agriculture industrielle avec les labours, laisser les sols à nu, ce sont des pratiques qui détruisent nos sols et on en a pour une ou deux générations. Même ici au Canada, de sol vivant. Il va falloir, et pendant très longtemps, on a parlé, on a dit, OK, c'est pas grave, on va mettre des engrais. Mais là, les engrais, comme les trois principaux engrais, là, le potassium, le phosphore et l'azote, l'azote industriel coûte énormément cher à produire à l'aide d'énergie fossile. On sait qu'on atteint un pic pétrolier et que ces ressources le diminuent aussi. Et on le voit même avec des phénomènes comme ponctuels, comme la guerre en Ukraine. Comment est-ce que ces engrais-là, qui sont souvent importés, vont coûter de plus en plus cher. Donc, les agriculteurs vont s'endetter. Le phosphore, les dernières mines de phosphore connues, on est en train de gratter le fond. C'est un engrais qui va disparaître, puis il va rester le potassium, ça, il y en a encore. Donc, comment on va engraisser nos sols s'ils sont morts, qu'on laisse pas la nature travailler pour nous? Fait que c'est cette réflexion-là qui est au départ du film. Et puis, en cours de route, ben, j'ai rencontré des agriculteurs qui pratiquaient, qui mettaient déjà en pratique ces grands principes-là, qu'on peut appeler agriculture régénératrice ou agroécologie, la permaculture. Ce sont donc des approches qui tentent de comprendre comment la nature fonctionne pour nous permettre de non pas d'extraire de la nature sans jamais penser à la nourrir, comme dans une relation qu'on a avec notre environnement, mais qui nous permet de l'accompagner pour qu'elle produise, bien sûr, ce qui répond à nos besoins, mais nos besoins, pas nos caprices et toutes nos fantaisies de monde qui carbure à la consommation et qui n'a aucune idée de l'effet que ça a sur la nature qui nous environne.
Sur l'affiche du film, on peut lire une phrase qui m'a beaucoup touchée. Humus, de la même racine qu'humain et humilité.
Oui. C'est moi aussi quelque chose qui m'a frappé et qui m'a incité à l'utiliser comme titre. Pendant un certain temps, j'avais appelé le titre, le film justement, Humus, humain, humilité. Puis, en cours de route, parce que c'est peut-être ça faisait un peu long, c'est devenu humus, mais j'ai mis en sous-titre de la même racine qu'humain et humilité. Et ça m'a aussi comme ouvert une porte pour le film. J'ai pas voulu faire un film qui ne parlait que des aspects techniques, de la fertilité du sol, tout ça. En fait, c'est technique, mais en même temps, ce sont des connaissances tellement transformatrices. Oui. C'est comme si quand tu commences à comprendre que le sol est vivant et qu'on a besoin de le protéger, ces petits vers de terre, ces petites bactéries, ces champignons qu'on marche dessus, qui sont en dessous de nos pieds, ben, le quart de la biodiversité mondiale est sous nos pieds. Donc, c'est un peu cette notion d'humilité aussi qu'on retrouve. Ben, il y a une sagesse dans les grandes religions monothéistes aussi qui portait ça, de dire l'homme, tu es poussière et tu retourneras poussière. Ben, là, c'est comme appliqué au monde contemporain. Là. Oui, l'humain, on l'a vu avec le virus, un simple virus qui a stoppé l'économie mondiale. On est dépendant de toute cette vie autour de nous. Et là, aujourd'hui, notre défi, c'est vraiment de continuer à assurer les besoins de l'humanité dans un esprit de justice aussi, d'égalité, de répartition des richesses, mais non seulement répondre aux besoins des humains, mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, c'est un peu le message du film, de considérer, répondre aux besoins de tous les organismes, de tous les autres êtres vivants qui nous entourent, qui nous nourrissent et qui, depuis des millénaires, nous ont engendrés même comme humains. Donc, cette humilité, elle est comme au cœur de la réflexion qu'on doit mener. Des fois, j'appelle ça aussi la maturité. Au cours de la recherche du film, je me suis beaucoup penchée aussi sur l'évolution de la vie. Et très souvent, on pense que on simplifie un peu en le faisant la pensée de Darwin qui disait que c'est la compétition qui est le moteur de l'évolution. Or, quand tu commences à regarder ça, tu dis mais c'est oui, ça, la compétition joue, surtout au niveau des individus, mais au niveau des espèces. Donc, ce sont les espèces qui ont appris à collaborer, qui ont travaillé en symbiose avec à l'intérieur de l'espèce et avec d'autres espèces, qui ont créé et diversifié la vie sur Terre. Donc, ça déboulonne tout le mythe aussi de la compétition. Donc, cette idée que l'humain est au-dessus de la nature, qui s'est extrait de la nature et qui peut continuer à chercher à répondre à ses besoins sans tenir compte des besoins des autres espèces qui l'environnent, ça demande de l'humilité et une certaine maturité aussi.
Avant de vous quitter, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour discuter de la ciné-rencontre qui se déroulera au CLAP Sainte-Foy le 21 mai. À quoi on peut s'attendre?
Ah, mais ça dépendra des questions des spectateurs. C'est une rencontre, moi, c'est un moment que j'apprécie toujours énormément de venir à la rencontre des gens, de voir comment le film est reçu et les questions que... en fait, je ne suis pas là comme une experte. J'ai lu le film, c'est étalé sur 5 ans, dont 2 au moment de la pandémie aussi. On a un peu cessé le tournage et suspendu pendant 6 mois le tournage, mais qui a permis de faire une suite doublement intéressante aussi. Donc, j'ai lu, oui, beaucoup. J'ai des connaissances, mais je suis loin d'être une experte. C'est beaucoup plus mon cheminement, la réflexion que j'ai menée et que même, je peux dire, toute l'équipe a menée, parce que toute l'équipe a été vraiment fascinée par la rencontre avec les agriculteurs du film, François Daou et Mélina Plante, qui sont propriétaires de la ferme Les Bontés de la Vallée, qui est en Montérégie, au sud de Montréal. Donc, tout le monde a été comme charmé par leur relation avec la nature. Ils sont dans une démarche de cohabitation. Il y a des mots-clés là, qui me reviennent aujourd'hui et que j'ai envie de transmettre, parce que leur démarche, ce n'est pas seulement, c'est ça que j'ai compris aussi en faisant la démarche, ce n'est pas qu'une démarche de régénération des sols et des écosystèmes. Ça nous amène à une régénération de la pensée. Il faut aujourd'hui comme changer notre rapport au monde. Et comment changer quelque chose qui est ancré dans une histoire millénaire? On laboure depuis 12 000 ans, depuis que l'agriculture existe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va déclencher ce changement dont dépend la survie de l'humanité comme espèce, là? Donc, c'est tout ce monde d'émerveillement que j'ai le goût de transmettre. Je dis souvent que c'est comme une espèce d'émotion jubilatoire que j'avais en discutant avec François et Mélina et d'autres personnes que j'ai rencontrées pour la recherche, en lisant les livres que j'ai lus. On dit, mais comment ça se fait qu'on nous a jamais raconté ça de cette façon-là? Alors, c'est ça que j'ai le goût de vous transmettre, plus que des connaissances techniques. J'en ai acquis quand même un peu, mais l'essentiel est ailleurs.
C'est vraiment super inspirant comme film. Merci beaucoup de nous avoir rencontrés ce matin, Carole Polquin. Je vous rappelle que vous êtes réalisatrice du film Humus, qui sera diffusé dès demain sur nos écrans.
Ben, merci beaucoup de m'avoir invité et permis d'exprimer tous ces sentiments que génère la nature qui attend qu'on s'occupe d'elle.
Absolument. Merci.
Merci. Bonne journée.